Marco Douiman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Certaines routes sont détruites petit à petit à travers le pays. Nous vous proposons de reportages sur l'imminente destruction de la RN7 au niveau de Kamesa et l'écroulement de la route Makamba-Mabanda au niveau de Nyabusunzu. Le directeur général des routes dit qu'une équipe est déjà sur terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. Dans ce journal également, on parlera des menaces d'écroulement du pont sur la rivière Gikoma. C'est en commune Mutimbuzi. Les effectifs des cas de malaria ne fléchissent pas dans la province de Karusi. Les responsables avancent que la population n'utilise pas correctement les moustiquaires. Le district sanitaire de Wuhiga est le plus touché. Dans ce journal également, on reviendra sur les dispositions pertinentes du code électoral en vigueur en ce qui concerne les candidatures au poste de président de la République, celles présentées par les partis politiques ou les indépendants. Voilà pour les grands titres.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Le pont se trouvant sur la route nationale numéro 7 qui mène dans les provinces du sud du pays. Ce pont est situé dans le quartier Kamesa, en zone Moussaga de la commune Moura. C'est en mairie de Bujumbura. Il est menacé d'écroulement, ce qui a provoqué la destruction d'une partie de cette route. Certains usagers de cette dernière disent que cela gêne la circulation et demandent sa réhabilitation avant que la situation ne s'aggrave. Les détails avec Ezekiel Nikumenayo.
Arrivé sur ce pont, situé environ à 150 mètres de la gare du sud de Vekile, en destination des provinces de Mwaro, Makamba et Rutana, une partie de la route s'est éclourée. Si on regarde en bas de ce pont, on y voit un grand ravin qui se réjouit vers le pont. Les piliers de ce dernier se sont effondrés. Certains usagers de la route nationale numéro 7 disent qu'ils craignent la perturbation de la circulation sur cette route. Des conséquences sont déjà présentes, indiquent les habitants du quartier Kamesa. Un tuyau qui alimente en nom ce quartier n'est plus fonctionnel. Ce pont avait été réhabilité en 2014.
Nous vous parlions également des menaces d'écroulement de la route Mabanda-Makamba au niveau de Nyabusunzu. À cet effet, le passage des voitures n'y est plus possible et ils sont obligés d'emprunter la route, la piste très étroite Mabanda-Kibago. L'administration communale Mabanda dit avoir soumis le rapport y relatif aux autorités hiérarchiques. Et de son côté, Emile Ndayisaba, le directeur général de l'agence routière du Burundi, fait savoir qu'on attend de connaître le soumissionnaire ayant gagné le marché de la réhabilitation de cette route. Jérôme Hakizimana, correspondance.
La dégradation de cette route s'observe à Nyabusunzu, c'est à peu près à 2 km du chef-lieu de la commune Mabanda. Les conducteurs des véhicules rémunérés sur ce tronçon Mabanda-Makamba disent qu'ils travaillent perdant car ils se rabattent sur notre route Mabanda-Kibago au niveau du camp militaire Mabanda pour rejoindre la route goudronnée. À part le mauvais état de route, les conducteurs rencontrés parlent de l'exité de cette dernière et encore plus, c'est loin par rapport à la voie normale. Ainsi, ces usagers déplorent les pannes répétitives de leurs voitures, des consommations supplémentaires du carburant et les difficultés de priorité dans une route. Ils demandent à cet fait que cette route soit rapidement réhabilitée. Sur ce, Laetitia Nyonguru, administrateur de cette commune Mabanda, dit avoir déjà soumis le rapport à l'office habilité depuis 2019. De son côté, le directeur général de l'agence routière du Burundi affirme que ce rapport leur est parvenu. Emile Ndayisaba fait savoir qu'ils attendent le nom du soumissionnaire gagnant. Bien que cela prenne du temps, les usagers de cette route estiment la distance additionnelle entre 5 et 10 km par rapport à la voie directe Mabanda-Makamba. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro.
Et le directeur général des routes fait savoir que le ministère a déjà dépêché une équipe sur terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts et qu'elle a déjà fourni son rapport. Emile Ndayisaba dit que ce rapport a déjà été transmis et tranquillise la population, que des travaux d'urgence sont en perspective, car l'État a pris la question à bras-le-corps. Suivez le directeur général des routes, Emile Ndayisaba.
Au cours de ces jours, il y a eu des dégâts qui se sont produits sur certains accès et sur certains ports, que ce soit ici dans la ville de Bujumbura ou à l'intérieur du pays. Nous avons fait une visite sur ces axes et après, sur la demande du ministère ayant les transports et les travaux publics dans ces attributions, nous avons fait des études et ces études ont été transmises au niveau du ministère et nous attendons le résultat de ces études. Nous avons vu que le gouvernement a pris la somme de tous ces dégâts. Nous attendons qu'il y ait des réparations si les axes qui ont subi des accidents graves. Actuellement, nous aimerions encourager la population que d'ici peu de jours, là où il y a eu des dégâts trop graves, il y aura des réparations dans les meilleurs délais.
Et je vous l'avais dit dans les titres, certains habitants proches de la rivière Gikoma en commune Mutimbuzi demandent à l'État de protéger les rives de cette rivière avant qu'il ne soit trop tard et craignent de se retrouver sans abri. Le courant d'eau a déjà emporté la fondation du pont et provoqué l'effondrement du barrage d'irrigation rizicole. Selon ces habitants, non seulement les ménages mais aussi l'État vont y perdre compte tenu du coût des travaux si rien n'est fait pour protéger le pont. On fait le point avec Charles Makoto.
Ibipfa bimaze kuba byinshi ikiraro mwabonye ingene kimeze gisigaye gihagaze mu kirere.
Ce pont qui fait objet de préoccupation de cet habitant est situé sur la rivière Gikoma, y relie la mairie de Bujumbura à la commune Mutimbuzi sur la route nationale numéro 9 Bujumbura Bubanza. L'eau de cette rivière a démoli la fondation d'une barrage d'irrigation creusant son lit à la hauteur de plus de 2 mètres de profondeur. Cet habitant crie au secours.
Et s'il advenait que le pont s'effondre, la situation sera très compliquée car d'autres provinces seront affectées par les conséquences.
Si la partie en amont du pont, chaque pluie qui tombe fait ses dégâts, emportant avec elle les berges et tout ce qui est planté à bord. Des palmiers qui bordaient le long de cette rivière à plus de 10 mètres ont été emportés par l'effondrement des rives dû à la déviation de cette rivière. Cette autre personne s'inquiète du rythme de l'effondrement qui menace le voisinage.
À maintes reprises, chaque fois que la pluie tombe, on a vu le débordement des eaux. La rivière a tendance de franchir la route RN9 et spécialement, elle a une tendance de remporter le pont. Nous demandons au gouvernement du Burundi de venir assister la population environnante, puisqu'il y a beaucoup de maisons ici, il y a beaucoup de projets qui seraient détruits, complètement détruits.
Tout près du pont, un tuyau d'eau qui traversait la rivière a été abîmé suite aux fortes pluies qui provoquent la destruction des rives il y a de là des semaines. Cet habitant demande l'intervention des pouvoirs publics.
Il faut que le gouvernement puisse prendre en main les choses en observant le rythme de débordement et d'éboulement de ce terrain. Nous voyons vraiment que la route RN9 est en danger. La nécessité urgente est que le gouvernement puisse y arriver et faire quelque chose pour protéger la route RN9 et le pont.
Ces riverains de Gikoma craignent la rupture de la circulation sur la route nationale numéro 9 qui, selon eux, peut survenir d'un moment à l'autre compte tenu des pluies qui tombent ce dernier temps provoquant la déviation de cette rivière. Ils appellent le gouvernement à agir en toute urgence avant qu'il ne soit trop tard.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Plus de 6 milliards de francs burundais, c'est la somme collectée dans tout le pays par l'Office burundais des recettes sur les revenus de l'impôt locatif durant l'année 2019, tandis qu'en 2018, l'OBR a collecté plus de 5 milliards de francs burundais. Le chef du service de collecte de l'impôt locatif l'a présenté ce jeudi lors d'une réunion organisée par l'OBR à l'intention des administratifs à la base. Joseph Ndayizeye déplore néanmoins le manque de personnel suffisant pour le recouvrement.
La collecte de l'impôt sur le revenu locatif, c'était une activité qui était réalisée au niveau des communes, y compris la mairie de Bujumbura. C'est une activité nouvelle à l'OBR parce que c'était une activité qui était réalisée au niveau des communes. Mais à partir de 2017, c'est là où l'Office burundais des recettes a commencé à collecter cet impôt sur les revenus locatifs. Je dirais que c'est une activité quand même qui connaît des progrès parce que pour l'année 2017, on a collecté autour de 4 milliards. Et puis pour l'année 2018, on a collecté plus de 5 milliards en 2019 et nous avons collecté plus de 6 milliards. Donc vous voyez que c'est un impôt qui connaît aussi une certaine progression. Donc nous disons que même pour l'année prochaine, on aura toujours à faire un pas vers l'avant. Et c'est vrai, il y a un personnel qui s'occupe de cette activité. Mais comme nous devons faire une couverture nationale, et je dirais qu'on n'a pas vraiment dans les provinces un personnel qui s'occupe uniquement de cette activité, à tel point qu'il y a certains contribuables qui nous échappent. Mais quand même, en collaboration avec l'administration, nous allons tout faire pour que aussi les contribuables soient aussi sensibilisés qu'ils doivent payer l'impôt sur le revenu qu'ils ont encaissé. Avec l'appui de l'administration, nous pensons que nous allons essayer de lever ce pari.
Et vous saurez qu'à Gitega, les bénéficiaires des parcelles de la ville de Gitega incapables de les bâtir devraient les remettre à ceux qui en ont les moyens. C'est le secrétaire général du parti présidentiel, Evariste Ndayishimiye, qui l'a dit ce mercredi à Gitega dans une séance d'échange de vœux entre les habitants de Gitega. Et c'était aussi l'occasion de célébrer le premier anniversaire de la capitale politique de Gitega. Le gouverneur de la province de Gitega a remercié les gens qui font construire des bâtiments qui font honneur à cette capitale politique. On parle santé maintenant. Les effectifs des cas de malaria restent impressionnants dans la province sanitaire de Karoussi, malgré la distribution récente des moustiquaires, ce qui inquiète les responsables de ce secteur, expliquant que la raison est l'ignorance de la population de Karoussi quant à l'utilisation correcte de moustiquaires. Le médecin provincial dit qu'il organise déjà des réunions de sensibilisation à l'intention de tous les leaders communautaires et surtout dans le district de Ouihiga, qu'il dit le plus touché, avec plus de 53%. Blaise Pascal Kararoumié.
Le médecin provincial de Karoussi dit organiser des réunions de sensibilisation à l'intention de tous les leaders communautaires de la province en vue de faire face au cas du paludisme. Docteur Lewenda Sinzisabira indique que cette campagne vise l'explication de l'usage correct du moustiquaire après la récente campagne de distribution des milliards à toute la population au mois de décembre dernier. Il explique qu'ils ont constaté que certains des habitants de Karoussi ignorent l'usage correct des moustiquaires et certains d'autres utilisent ces moustiquaires pour d'autres fins et d'autres les vendent. Les données du Bureau provincial de la santé montrent qu'au dernier trimestre de l'an 2019, cette province sanitaire a enregistré plus de 50% des cas de la malaria et le district sanitaire de Ouihiga avec des effectifs les plus élevés. Dans la commune de Ouihiga, par exemple, on a enregistré 39 212 cas de malaria, soit 53%. Dans la commune de Gitaramuka, 29 967 se sont révélés malades de la malaria, soit 57%. Avec plus de 70% pour certains centres de santé comme Anyaruhinda. Et le centre de santé de la paix de Ouihiga a enregistré à lui seul plus de 75%. Docteur Onda Sinzisabira fait espérer que cette sensibilisation d'usage du moustiquaire, de la prévention et du traitement efficace du paludisme permettra de diminuer et voire même éradiquer cette maladie dans cette circonscription sanitaire. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro.
Merci Blaise. Également dans l'actualité, santé toujours, avec le lancement ce jeudi d'une campagne de dépistage et de diagnostic du cancer du col de l'utérus. Docteur Harimesh Jean-Marie, directeur du centre Boudjapath, à l'initiative de cette activité, déplore le manque de centres de diagnostic et de matériel adéquat. La présidente de l'association des personnes atteintes du cancer, Agrippine Nyandoui, demande au ministère de la Santé d'aider dans la sensibilisation. Yvette Nijimbele, reportage.
Le cancer de l'utérus est l'une des maladies qui n'a pas de symptômes ni de signes chez un patient. Selon le docteur Jean-Marie Harimeshi, le seul moyen de savoir si vous avez un cancer du col, c'est de se faire dépister.
Les moyens de prévention pour le cancer du col à l'heure actuelle, c'est le dépistage. Le dépistage parce que le dépistage permet de reconnaître les lésions précancéreuses et ces lésions précancéreuses sont faciles à traiter, même au Burundi, c'est un traitement simple.
Néanmoins, ce directeur du centre de dépistage et de diagnostic du cancer, Boudjapath, déplore le manque de structures sanitaires équipées en matière de cancer.
Il y a un manque criant de structures sanitaires équipées en matière de cancer. Boudjapath et le précurseur de la sodomie.
Agrippine Nyandoui, directrice de l'association des personnes atteintes du cancer, souligne le manque de moyens pour se faire dépister et demande au ministère de la Santé et de lutte contre le sida d'aider dans la sensibilisation.
S'il y a des personnes qui peuvent payer pour la population de se faire dépister, c'est vraiment une grande chose.
Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer du col est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme.
Yvette Nijimbere. Politique à présent, le candidat au poste présidentiel doit être de nationalité burundaise d'origine et trajet de 40 ans révolu au moment de l'élection, comme le stipule l'article 94 du Code électoral. Et pour le cas d'un candidat indépendant, il doit produire une déclaration sur l'honneur qu'il n'appartient pas à un parti politique depuis au moins une année. Le même Code électoral stipule que les candidats sont interdits de déposer des emblèmes aux couleurs semblables. Au cas contraire, la préférence est accordée à celui qui a déposé le premier sa candidature. Aimé Richard Niyonguru nous a lu quelques autres dispositions pertinentes de ce code.
Le chapitre est premier des généralités sur les dispositions particulières aux élections présidentielles. L'article 89 stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 7 ans renouvelable. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Poursuit cet article. L'article 90 précise bien que la circonscription électorale est le territoire de la République du Burundi sous réserve de la participation des Burundais résidant à l'étranger. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement. Après le premier scrutin est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés, comme nous le lisons dans les colonnes de l'article 91 du même code électoral. En cas de candidature unique, soit qu'elle a été seule présentée ou que les autres candidats se soient désistés, le candidat doit avoir au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, les candidatures sont relancées pour une période non dépassée. Passant pas 10 jours. L'article 93 de ce même code stipule que le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'entrée en fonction de son successeur. L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et 3 mois au plus avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. L'article 94 du code électoral précise que le candidat aux fonctions de président de la République doit avoir la qualité d'électeur dans les conditions prévues par les articles 4 à 10 du présent code. Il doit aussi jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Il doit être âgé de 40 ans révolu au moment de l'élection. Il doit aussi résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures. Ce dernier doit également jouir de tous ses droits civils et politiques. Pour le cas d'un candidat indépendant, il doit produire une déclaration sur l'honneur qu'il n'appartient pas à un parti politique depuis au moins une année ou qu'il ne fait pas partie d'aucun organe dirigeant d'un parti politique depuis au moins 2 ans. En cas de fausse déclaration, la Commission électorale nationale indépendante CENI rejette sa candidature. Il est interdit de déposer des emblèmes couleur ou signe semblable lorsque plusieurs candidats concurrents adoptent des emblèmes couleur ou signe semblable. Préférence est accordée au candidat qui a déposé le premier sa candidature, comme cela paraît dans l'article 102 du même code électoral.
Parlons femmes. La femme peut contribuer à la résolution des conflits au sein d'une communauté, comme le témoignent des habitants de la colline Rwaniro, en commune Burambi de la province Rumonge. Ces habitants expliquent que la femme contribue également à l'affermissement de sa sécurité et de son développement. Le conseiller social de l'administrateur communal Burambi déplore que ces femmes soient moins nombreuses. Vestine Butoui.
Certains de ces habitants de la colline Guaniro, commune Buramba en province Rumonge, affirment l'existence des femmes capables de résoudre des conflits au sein de la communauté. Yolande Ndaisenga est l'une d'entre eux. Elle indique que quand un conflit survient dans leur entourage, elle prend le devant pour apporter sa contribution dans le but de mettre fin à ce conflit. Au cas où ce dernier persiste, elle signale que c'est à ce moment qu'elle a besoin d'une intervention des hommes.
Nous apportons nos secours aux femmes et aux hommes confondus. Quand deux personnes sont en train de se battre, en tant que femme, je me mets entre elles et ils n'osent point te frapper. Et si la querelle continue, nous faisons intervenir nos mains.
Fait confirmer par Isdor Bigirimana, riverain de la colline Guaniro, il dit avoir vu des femmes qui interviennent dans la gestion des conflits avant que les hommes n'arrivent sur le lieu des bagarres.
Il peut se produire une bagarre et souvent ce sont des femmes qui se rendent sur le terrain en premier lieu. Dans ce cas, celle-ci demande de quoi s'agit-il pour en fait conseiller les deux côtés antagonistes. Il arrive que les conseils donnés prennent effet et puis les hommes arrivent sans qu'il n'y ait plus de tension.
Quant à Domine Ndikuriyo, une des femmes mobilisatrices pour la paix sur la colline Guaniro, quand la communauté compte beaucoup de femmes capables de résoudre des éventuels conflits, cela affermit sa sécurité pour enfin favoriser son développement.
Quand la colline possède un bon nombre de femmes capables de résoudre des conflits, des palabres sont réduites car les gens n'ont plus besoin de se rendre à la police ou au tribunal. Donc, la paix et la sécurité règnent dans cette communauté.
Israël Kabura, conseiller de l'administrateur communal Burambi, chargé de l'administration et des affaires sociales, reconnaît l'existence de ces femmes, bien qu'elles soient moins nombreuses. Il explique que la culture burundaise est l'un des obstacles freinant les femmes à s'impliquer dans la résolution des conflits au sein de la communauté.
Le premier problème est qu'ici, en commune Burambi, les femmes exercent beaucoup d'activités champêtres. En deuxième lieu, la culture burundaise qui fait qu'une femme ou une fille soit considérée comme si elle n'avait pas droit de sortir de chez soi. Une autre chose est que les maris ne donnent pas à leurs femmes la liberté de circulation.
Israël Kabura appelle les femmes à s'impliquer davantage dans la résolution des conflits au sein de la communauté, étant donné qu'elles aient cette capacité de compréhension des phénomènes sociaux comme les hommes.
Vestine Boutoui, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi.